RFI 6h30 à Dakar, 7h30 à Paris et 8h30 à Goma.
RFI Matin.
Le journal de Nemo en piste. Nemo à Goma. Après les affrontements de la semaine passée, il ne faut pas tarder à enterrer les corps.
Qui s'accumulent dans les morgues de la ville. Le risque épidémiologique est élevé. Alors que la place et parfois l'électricité viennent à manquer dans les hôpitaux de la capitale provinciale du Nord Kivu. En coulisses, l'EAC et la SADC s'activent et prévoient un sommet conjoint ce samedi à Dar es Salaam. À suivre également la reprise du procès en appel de l'attentat de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Les réactions qui pleuvent au Sénégal, après l'accord par les autorités d'indemnité en faveur des familles de victimes enregistrées lors des manifestations entre février 2021 et 2024. Et puis la réponse de Pretoria à Washington. Donald Trump accuse l'Afrique du Sud de confisquer des terres et de très mal traiter certaines catégories de personnes. Nous sommes à Johannesburg en fin d'édition. Dans l'est de la République démocratique du Congo, OCHA, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, annonce un nouveau bilan d'au moins 900 morts depuis la semaine dernière à Goma, ville contrôlée par le M23, soutenue par le Rwanda. De nombreuses dépouilles n'ont pas encore été décomptées. Et pendant ce temps, d'autres organisations alertent sur l'urgence concernant les inhumations. Urgence au vu du risque épidémiologique. La plupart des corps s'accumulant dans les morgues des hôpitaux, débordés, parfois privés d'électricité. Je vous propose d'écouter Myriam Favier, chef du comité international de la Croix-Rouge dans la province du Nord Kivu. Elle tient à rassurer sur le processus d'identification des victimes.
C'est effectivement une logistique assez lourde. Maintenant, le CICR travaille avec la Croix-Rouge nationale à la collecte des dépouilles mortelles, mais travaille aussi avec d'autres partenaires, dont la protection civile ou l'Organisation mondiale de la santé, pour essayer de donner un enterrement digne, le plus digne possible à toutes les personnes qui sont mortes dans les affrontements. Et donc, on fait ce qu'on peut. C'est effectivement une course contre la montre. Voilà, les moyens sont mis à disposition. Bon, le principal challenge, c'est effectivement la capacité limitée des morgues. Ont été directement impactés par le fait que certaines lignes électriques ont été coupées et donc leur approvisionnement en réfrigération était touché. Bien sûr, il y a aussi le fait que les terrains à Goma où l'on peut enterrer des corps sont extrêmement limités. Donc ça a été une course contre la montre de trouver des terrains, mais également ça reste une course contre la montre puisque l'identification des corps est de plus en plus difficile puisque chaque jour qui passe nous rend la tâche plus difficile.
Myriam Favier, pendant ce temps, on s'active en coulisses. Un sommet de l'EAC et de la SADC doit se tenir samedi à Dar es Salaam en Tanzanie. Le ministère rwandais des Affaires étrangères a confirmé à RFI la participation de Paul Kagame, alors que les modalités de participation de Félix Tshisekedi ne sont pas encore définies. Aux Nations Unies, dont la Chine vient de prendre la présidence pour un mois du Conseil de sécurité, le représentant de Pékin, Fu Zhong, a plaidé pour l'arrêt du soutien de Kigali au groupe M23 et au retrait de ce groupe et des troupes rwandaises du territoire qu'ils occupent dans l'est de la RDC.
En Côte d'Ivoire, Nemo, la reprise ce lundi du procès en appel des auteurs de l'attentat de Grand Bassam.
19 morts et 33 blessés avaient été à déplorer ce 13 mars 2016 dans la station balnéaire du sud-est du pays. Les trois assaillants avaient également été tués. Une attaque revendiquée par le groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique. En décembre 2022, 10 personnes avaient ensuite été condamnées à la perpétuité, notamment pour complicité d'assassinat et actes de terrorisme. 4 d'entre elles ont fait appel. Compte rendu d'audience, Binta Diagne à Abidjan.
Ils sont 4, se tiennent debout devant la cour et saisissent cette audience pour dire leur part de vérité. Pour condamner quelqu'un, il faut des preuves, lâche l'un d'eux à l'entame du procès. Il y a là un chauffeur, un marabout accusé d'avoir hébergé des présumés terroristes et 2 personnes qui auraient aidé à faire du repérage et à convoyer des armes. Tous les 4 rejettent les accusations. « Je n'ai jamais été informé du projet d'attentat », insiste Sidi Mohamed Kunta. Son avocat, maître Jonas Zadi, remet en question le contenu même des débats.
On ne peut pas démontrer avec évidence qu'ils sont ceux même qui ont commis les faits de la cause. Ce sont des supputations pour dire que vous connaissez telle personne, vous avez le même patronyme et dès lors, comme vous avez hébergé telle ou telle personne, c'est vous qui avez commis les faits. Ce ne sont pas des preuves, mais accueillir quelqu'un chez soi n'est pas forcément une cause de complot. Est-ce qu'ils ont commis les faits de l'espèce? Et aussi le complice est celui qui a pris une part active à la commission de l'infraction. Il a donné à un renseignement, arme, où il a contribué au pays. Mais ce n'est pas le cas.
Un nom revient sans cesse, celui de Kunta Dalla, considéré comme le cerveau de l'attentat. Il a été condamné en première instance, mais il ne purge pas sa peine, car il est en fuite hors de Côte d'Ivoire. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
De nouveaux éléments autour des assassinats de nos confrères Ghislaine Dupont et Claude Verlon.
C'est dans son livre dans lequel il raconte ses plus de 700 jours de captivité dans le désert du nord du Mali qu'Olivier Dubois apporte du neuf. 4 jours avant sa libération, l'otage a pu échanger avec Seydan Aguita, l'un des cadres d'Al-Qaïda, qui reconnaît être le commanditaire de l'enlèvement de nos confrères. Lui affirme que leur mort le 2 novembre 2013 à Kidal est la conséquence du survol de l'armée française. Pour l'avocate de l'association des amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, qui avait demandé l'audition d'Olivier Dubois en 2024, c'est un témoignage capital. Mais elle assure qu'il n'a pas cité Seydan Aguita sur un possible survol devant la juge. Je vous propose d'écouter Maître Marie Dosé.
Ce témoignage est et demeure essentiel à la manifestation de la vérité. Il y a une contradiction qui effectivement pose une difficulté. Ce qu'il dit au magistrat instructeur en ma présence, c'est qu'évidemment Seydan Aguita est le commanditaire, que Seydan Aguita lui a indiqué qu'il n'était pas celui qui avait ordonné la mort de Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Il dit que un djihadiste parmi beaucoup d'autres à un moment donné évoquait cet hélicoptère, mais quand il l'évoque dans son audition de témoin, c'est plutôt pour l'écarter. Il n'indique absolument pas que Seydan Aguita lui aurait parlé de ça. Je constate quand même qu'il y a des contradictions par rapport à ce qu'il dit ensuite publiquement. Il est tout à fait possible en droit de solliciter une nouvelle audition pour recueillir les observations du témoin sur les contradictions qui existent entre son audition judiciaire et ce qui est avancé publiquement dans son livre ou dans ses interviews. Je verrai le moment venu ce que mes clients souhaitent que je fasse. Nous verrons bien.
Maître Marie Dosé avec Guillaume Thibault. Et j'ajoute que, joint par RFI, le ministère des Armées indique, je cite, « n'avoir pas de commentaires sur une affaire à l'instruction ».
RFI, 6h37 à Dakar, au Sénégal. Cette polémique dans le pays depuis quelques jours.
Oui, Andréane, après l'accord par les autorités de 10 millions de francs CFA aux familles de 79 personnes tuées lors des manifestations entre février 2021 et 2024. Pour l'opposition, il n'est pas normal que ces indemnités soient délivrées en dehors de toute procédure judiciaire. En revanche, l'ONG Amnesty International salue cette décision d'apporter une aide immédiate aux familles endeuillées. Sedi Gassama est le directeur sénégal de l'organisation. Il répond aux questions de Léa Lisa Vesterhoff.
Nous sommes depuis ces événements en contact avec ces familles et nous sommes témoins de la souffrance que vivent ces familles-là. Les personnes qui sont décédées étaient pour la plupart des chefs de famille qui ont laissé des veuves et des orphelins qui aujourd'hui sont dans une situation extrêmement précaire. Il y a aussi évidemment les blessés. Beaucoup aujourd'hui ont encore besoin de soins médicaux. Ils sont payants et donc c'est vraiment une urgence de les assister.
Pourquoi faire cette distinction entre assistance et réparation?
La réparation, elle vient toujours après une procédure judiciaire. On ne peut pas accorder des dommages et intérêts en dehors d'une procédure judiciaire. C'est une exigence des familles, c'est une exigence des Sénégalais que justice soit rendue aux victimes. Et pour cela, il faut que la loi d'amnistie soit d'abord abrogée, que les cabinets d'instruction puissent reprendre le travail qui avait été commencé sur les différents cas de décès, de torture, et que, évidemment, ces procédures puissent aboutir. Et cela peut prendre beaucoup d'années. On ne peut pas attendre aussi longtemps pour assister les familles qui sont dans l'urgence, avec des enfants qui peuvent déscolariser, simplement parce que le soutien de famille n'est plus là.
C'est Sedi Gassama avec Léa Lisa Vesterhoff à Dakar. Et à vous de donner votre avis sur ces indemnisations au Sénégal. Tout à l'heure, dans Appel sur l'actualité, rendez-vous avec Juan Gomez à partir de 8h10, temps universel.
En Guinée, les appels en faveur de la candidature du général Mamadi Doumbouya à la présidentielle s'accumulent.
Notamment ce week-end, en marge d'un meeting en hommage au président de la transition. Pourtant, le chef de l'État a à plusieurs reprises assuré que ni lui ni les autorités militaires et civiles ne seraient candidats à la moindre élection. Des soutiens qui surgissent alors qu'aucune date pour un retour à l'ordre constitutionnel n'a été fixée. Sidi Yansane.
Samedi dernier à Cancan, ville natale du général Doumbouya, se tenait une marche de l'unité et de la paix qui a rassemblé des milliers de personnes, dont plusieurs ministres réputés comme fervents défenseurs du président de transition, tous vêtus de t-shirts à l'effigie du militaire. Dans son discours, le porte-parole de la présidence, le général Amara Camara, crie à la foule que l'unique voie vers le développement passe par Mamadi Doumbouya.
C'est vous, peuple, à chacun d'entre vous, que revient la légitimité de décider de l'avenir du pays. Il est aussi évident que la candidature prochaine du président Mamadi Doumbouya est la seule alternative.
est la seule alternative pour rassembler les Guinéens, termine-t-il. Pour le ministre de l'Urbanisme, Maurice Condé, la candidature du général reflète simplement la volonté populaire.
Partout où il y a eu ces actions de mobilisation, ces questions ont été toujours demandées. Donc nous sommes dit, en attendant que la nouvelle constitution qui va être l'outil juridique de référence, nous nous sommes convaincus que notre champion, notre candidat, sera bel et bien le général Mamadou Doumbouya. Nous l'affirmons du haut ici à Cancan, afin de lui conférer leur voix pendant les futures échéances électorales à venir.
Certes, les soutiens pro-Doumbouya se renforcent, mais ils se déclarent essentiellement lors d'événements politiques directement pilotés par les autorités. La charte de transition dictée et signée par le chef de l'État lui interdit toute prétention électorale, une disposition qui n'est susceptible d'aucune révision, souligne pourtant le texte.
En Sierra Leone, c'est une image qui fait beaucoup parler.
Une vidéo même sur laquelle on voit le président Julius Maada Bio et à ses côtés Jos Leydekkers. Vous ne connaissez sans doute pas son nom, mais c'est le trafiquant de drogue le plus recherché d'Europe. L'image a été capturée lors des fêtes de fin d'année. L'entourage présidentiel assure ne pas avoir reconnu l'individu, mais la société civile y voit un problème plus vaste. Ce dossier ne serait d'ailleurs pas un cas isolé. Je vous propose d'écouter Solomon Sundu, directeur exécutif de l'organisation de la société civile Bianke Foundation.
We had our ambassador.
Déjà, notre ambassadeur en Guinée a été rappelé après la découverte dans son véhicule de substances ressemblant à de la cocaïne et avec de l'argent liquide. Et voilà qu'une nouvelle affaire de drogue éclate. Nous appelons les autorités à redoubler d'efforts pour mettre fin à ce fléau. Il est impératif de produire des rapports indépendants et de formuler des recommandations afin d'éviter que ces scandales ne se reproduisent. Il faut également renforcer la sécurité de nos frontières, actuellement trop poreuses. Nous réclamons la mise en place d'une commission d'enquête pour déterminer où se trouve ce baron de la drogue, comment le gouvernement a-t-il établi un contact avec lui, est-il venu dans notre pays pour y faire des affaires. Toutes ces questions doivent être abordées. Si l'État parvient à instaurer cette commission dans les plus brefs délais, les citoyens sauront exactement où se trouve cet individu. Nous voulons voir le gouvernement agir fermement contre le trafic de cocaïne. Nous ne pouvons tolérer que l'argent soit blanchi par des activités illicites. Tel est le sens de notre appel.
Solomon Sundu avec Christina Okello.
La réponse de Pretoria à Washington.
Une quinzaine de jours après l'annonce du gel de l'aide humanitaire américaine pour 3 mois, Donald Trump annonce désormais mettre fin à tout financement de l'Afrique du Sud. Le temps d'une enquête, Washington accuse en fait Pretoria de confisquer les terres et de traiter très mal certaines catégories de personnes. Une prise de position qui fait suite à la promulgation d'une loi qui permettra à l'État, dans des cas précis, de récupérer des terres sans compensation. RFI Johannesburg, Claire Bargelès.
Les relations entre les deux pays étaient déjà tendues depuis le rapprochement de la nation arc-en-ciel avec le groupe des BRICS et sa défense de la cause palestinienne, notamment devant la Cour internationale de justice. Mais c'est cette réforme foncière visant à réparer les torts de l'apartheid qui aura fait réagir Donald Trump ainsi qu'Elon Musk, natif d'Afrique du Sud et qui dénonce des lois sur la propriété ouvertement racistes. Pour le porte-parole de la présidence sud-africaine, Vincent Magwenya, c'est une mauvaise interprétation qui est faite de ce nouveau texte.
La loi sur l'expropriation récemment adoptée n'est pas un outil de confiscation, mais un processus judiciaire constitutionnel qui permet d'assurer un accès aux terres de façon équitable et juste, comme l'enjoint la Constitution.
La présidence se dit ouverte au dialogue et espère pouvoir échanger avec l'administration Trump. Mais au Cap, lors du rassemblement consacré à l'industrie minière, le ministre Guédéman Tatché s'est montré beaucoup moins diplomatique.
Un des désavantages d'être une économie en développement, c'est d'être victime d'intimidation de la part des économies développées. On doit nous traiter avec respect et il faut bien comprendre que nous sommes un État souverain, pas une province des États-Unis.
Le gouvernement rappelle que la plupart des financements américains reçus ne concernent que la lutte contre le VIH et contribuent à hauteur de 17% de ses programmes. Claire Bargelès, Le Cap, RFI.
Et Andréane, c'est à Johannesburg que se referme cette édition.
Et ce sujet dont on parlait à l'instant, on y revient dans la revue de presse. Dans quelques secondes, merci Nemo en Peace.